Soyez tous les bienvenus, il est 7h sur Europe 1.
Il ne faut rien céder à la violence, il faut être intraitable sur les valeurs. En démocratie, il n'y a pas de place pour la haine et la violence.
Bousculé, mais toujours là, la gifle reçue hier après-midi par Emmanuel Macron comme un nouvel argument politique pour l'Élysée, esquisse d'une nouvelle image présidentielle, décryptage de cette séquence dès le début du journal. On va se mettre à table aussi dans un instant avec la réouverture partielle des salles de restaurant. Avec aussi un conseil, vos repas en famille, c'est sans télé, manger en regardant un écran, c'est mauvais pour l'apprentissage du langage des enfants. Juste après le journal, l'éclairage écho de Nicolas Barré et votre regard international, Vincent Hervouette.
Oui, Joe Biden arrive en Europe pour une semaine de marathon diplomatique, l'Amérique est de retour, les néoconservateurs aussi.
À suivre aussi Virginie Fulpin, l'édito sport après la victoire des Bleus hier soir, et votre expression du jour, Stéphane Bern.
Vous agissez de conserve ou de concert, Sébastien ? Ben vous le saurez dans un instant.
A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 7h, c'est avec Marion Calais. Bonjour Marion.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Ce sont deux sujets qui se partagent ce matin les unes de vos journaux. Le retour en salle dans les restaurants, on va y revenir dans un instant. Et la gifle présidentielle, qualifiée par les dernières nouvelles d'Alsace de gifle à la République par le progrès de claque à la démocratie. Le chef de l'État approuve d'ailleurs dans le Dauphiné libéré, s'il y a de la violence, la démocratie est menacée.
Bonjour Jean-Rémy Baudot.
Bonjour à tous.
C'est vous qui suiviez Emmanuel Macron hier dans la Drôme pour Europe 1. Un président vigilant donc, mais qui, malgré cette gifle, n'entend rien changer à ses ambitions de dialogue avec les Français. Il s'est d'ailleurs offert en début de soirée un long bain de foule dans les rues de Valence.
Oui, 45 minutes hier soir où Emmanuel Macron, son épouse Brigitte à ses côtés, s'est montré le plus naturel possible, distribuant du selfie et des chèques à la foule.
Je vais toujours au contact, à portée d'engueulade, je le dis. Et j'y tiens. Les gens m'expriment leur colère, parfois leur désarroi. Je suis toujours là. Ça, c'est la colère légitime. Et on sera toujours là pour y répondre.
Emmanuel Macron au contact, mais sous haute surveillance. Gardes du corps très nombreux, gendarmes mobiles en cordon, policiers en civil dans la foule. De quoi gagner en assurance.
Il ne faut rien céder à la violence. Il faut être intraitable sur les valeurs. En démocratie, il n'y a pas de place pour la haine et la violence.
Le message est clair, confirmé par son entourage. Pourquoi on céderait devant un militant royaliste anti-républicain, martèle l'un de ses proches. Par ce bain de foule hier soir, l'Élysée a repris la main sur la communication présidentielle, capitalisant sur l'image de la gifle et fabriquant au passage un Emmanuel Macron moins lisse, un peu plus cabossé. Un nouvel argument idéal pour aborder une campagne.
L'analyse de Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europe 1, l'auteur de la gifle, ainsi qu'un autre homme qui filmait la scène, sont toujours en garde à vue ce matin.
C'est donc l'autre grand titre ce matin. Après les écoles, après les terrasses, une nouvelle salle de réouverture ce mercredi.
Salles de sport, piscines, parcs d'attractions, casinos vont à nouveau accueillir du public. Les salles de restaurant reprennent également vie à la moitié de leur capacité. Mais si vous ajoutez à ça le couvre-feu décalé à 23h, ça donne des réservations qui explosent, comme l'a constaté Victor Pourchet pour Europe 1.
C'est simple, il n'y a jamais eu autant de réservations qu'aujourd'hui, pour un jour normal de semaine. Et c'est peut-être votre cas, les clients s'y sont pris à l'avance. Les réservations bondissent de près de 200% par rapport au même jour de l'an dernier, selon les données de The Fork, la plus grosse plateforme de réservation de restaurants en France. Selon son directeur général, Damien Rodière, ça s'est même accéléré ces derniers jours.
D'un lundi à un autre, on a augmenté de près de 50% le volume de réservation. Et ça s'accélère. Par rapport à la réouverture du 19 mai, on voit aussi qu'on est sur des volumes qui sont bien supérieurs.
Alors, il y a du monde, mais il y a des différences en fonction des régions. Les réservations ont été plus rapides dans le sud, mais le nord progresse grâce à une météo clémente.
Typiquement, Lille, la semaine dernière par rapport à la semaine précédente, on a fait plus 40%. Sur Strasbourg, on fait plus 30%, alors que sur Marseille, on est à plus 17%. Donc on voit bien que ça s'accélère dans le Nord, mais en partant de plus loin.
Une constante en revanche, les Français ont envie de bien manger, quitte à payer plus cher. Le ticket moyen est passé de 25 euros avant le Covid-19 à 35 euros aujourd'hui.
Et en amont de ce pas supplémentaire vers la liberté, le déplacement de Jean Castex ce matin au marché de Rungis.
Ouais, comme un coup d'envoi donné à cette journée. Hélène Terzian, vous êtes à ses côtés pour Europe 1.
Ouais, effectivement, et quoi de mieux pour lancer cette journée que de prendre un café, non pas en terrasse, mais cette fois à l'intérieur, sur le zinc, le Premier ministre savoure.
Bonjour monsieur, merci pour les cafés.
C'est quoi la sensation ?
D'abord, le café est bon, et c'est la vraie vie, quoi. Hein ? Tout simplement, c'est la tradition française.
Alors, on est ici à Rungis, et c'est surtout le plus grand marché du monde. 3 produits frais sur 4 atterrissent aujourd'hui dans les assiettes des restaurants franciliens. Détour incontournable à la triperie.
Monsieur Nadeau est le président des produits tripiers en France.
Ah.
On vend les têtes de veau entières à certains restaurateurs qui les font cuire entières.
Vous avez des endroits où vous la servez entière ?
Ah oui.
En ce jour de réouverture, le Premier ministre tenait particulièrement à rendre visite aux employés du marché.
Rungis, c'est à la fois une structure qui n'a jamais cessé de travailler et de nourrir les Françaises et les Français depuis le début de la pandémie. Et c'est aussi le symbole de la reprise en ce jour particulier.
Voilà. Donc, on va aller dans un
trait d'union.
Jean Castex qui s'apprête maintenant à visiter le rayon fruits et légumes avant de prendre un petit déjeuner toujours au marché.
Hélène Terzian en direct du marché de Rungis pour Europe 1.
Et ce mercredi, c'est aussi l'entrée en vigueur du pass sanitaire pour les rassemblements de plus de 1000 personnes. Preuve d'une vaccination complète, d'une immunisation ou d'un test négatif, ce pass sanitaire devra être présenté dès l'âge de 11 ans.
Un pass que les spectateurs du Stade de France, ils étaient 5000, ont été les premiers à tester hier, notamment ces soignants, heureux d'avoir été invités et d'être de l'événement.
Je travaille de nuit, j'ai été remplacée par une collègue parce que je devais travailler ce soir. On est heureux d'être au stade.
J'ai trouvé ça très touchant d'avoir pensé à nous, à nos enfants. Et on pense à nous, mais nous aussi on pense à tous les Français pour qui cette année a été difficile.
Des soignants et autres spectateurs invités rassemblés dans les parties basses des tribunes. Et l'image n'a pas manqué d'étonner à l'heure encore de la distanciation et des gestes barrières. Mais l'épidémiologiste Benjamin Davidou l'assure, le protocole a été respecté.
On était assis une personne sur deux, donc dans les règles de la distanciation, sur plusieurs rangées, uniquement sur les rangées du bas, pas les rangées du haut. On a une partie du stade en effet sur les côtés qui était totalement vide. Mais je pense aussi dans un esprit justement de pouvoir aussi contrôler. Et honnêtement, les gens étaient masqués. Bien sûr, il y a la problématique entre guillemets le fait qu'on peut boire, qu'on peut manger, mais on est en extérieur. Il n'y a pas eu de scène de liesse pendant les matchs, les gens se levaient, applaudissaient. Dans une situation où, encore une fois, il faut le rappeler, tout le monde était testé négatif ou vacciné. Et donc je pense que c'est un bel exercice. Et ça veut dire, encore une fois, qu'on est en train de prendre le pas sur le virus, que le virus a un genou à terre. Et il faut maintenant le doubler par la droite et durablement pour passer un été le plus joyeux et le plus libre d'esprit possible.
Des propos recueillis par Nicolas Feldman pour Europe 1 à l'issue de ce France-Bulgarie que les Bleus ont remporté 3-0, doublé d'Olivier Giroud, entrée pour pallier la blessure de Karim Benzema, une béquille et rien de dramatique, hein, selon le sélectionneur Didier Deschamps.
Et on reviendra sur l'aspect sportif avec Virginie Fulpin tout à l'heure, dans un petit quart d'heure, son édito sport. Il est 7h08 sur Europe 1, la suite de votre journal. Marion Calais avec aujourd'hui les explications attendues de Jean-François Copé dans le procès Big Malion.
L'ancien patron de l'UMP s'exprimera en simple témoin, lui qui a toujours soutenu qu'il ignorait tout du système de fausses factures mis en place pendant la campagne de 2012. La justice, toujours avec un dispositif unique en France, expérimenté dans plusieurs communes en Ariège.
Entre désengorgement des tribunaux et renforcement du rôle des élus, l'idée est de permettre aux maires de faire eux-mêmes des rappels à la loi pour des incivilités du quotidien. Reportage du correspondant d'Europe 1 en Occitanie, Benjamin Péter.
Ce peut être un dépôt sauvage d'ordures, un conflit de voisinage, des infractions mineures qui font toujours l'objet d'une enquête, remontent sur le bureau du procureur, qui peut alors décider d'une alternative aux poursuites. Et ce rappel à la loi, c'est le maire qui peut s'en charger. À Pamiers, trois adjoints de la maire Frédéric Thiénot ont été formés pour cela. Depuis janvier, une seule affaire de chien dangereux a donné lieu à ce type de procédure avec succès.
Cet entretien a donné de grandes satisfactions à l'élu qui a vraiment eu l'impression qu'il était efficace. La personne qui en fait avait un chien sans muselière a très bien compris les enjeux d'un meilleur comportement.
C'est le procureur de Foix, Laurent Dumaine, qui a imaginé cette convention de justice de proximité entre son parquet et les communes. L'idée, c'est d'aller plus vite et de renforcer le rôle de l'élu au quotidien.
Les maires ne sont absolument pas des juges. Ils participent à la mise en œuvre des alternatives aux poursuites décidées par mon parquet. Il ne s'agit pas de se décharger sur les élus de quoi que ce soit. C'est aussi permettre aux maires d'être remis au centre de l'échiquier démocratique. Parce qu'effectivement, il est reconnu comme étant une autorité.
Alors déjà, 8 communes ont signé cette convention depuis le début de l'année. D'ici l'été, 80% des habitants du département devraient pouvoir en bénéficier. Et au parquet, un juriste assistant a été embauché spécialement pour assurer l'interface avec les mairies et former les élus. En Ariège, Benjamin Péter, Europe 1.
Enfin, décidément, ce n'est pas une bonne idée. On savait que manger devant la télé faisait grossir. Eh bien, on découvre en plus aujourd'hui que la pratique nuit à l'acquisition du langage des enfants.
Résultat d'une étude de l'INSERM au cours de laquelle 1500 enfants ont été suivis de la naissance jusqu'à l'âge de 6 ans, Anne Le Gall.
Voilà, durant plusieurs années, ces chercheurs ont notamment mesuré le temps d'exposition à la télévision durant les repas et l'évolution du langage de ces enfants. Et résultat, dans les familles qui gardent la télé allumée à table, les enfants ont à l'âge de 5 ans un peu peu moins de vocabulaire et moins d'aisance verbale que les enfants du même âge qui ont l'habitude de manger sans écran. Pour Jonathan Bernard, co-auteur de l'étude, l'une des explications est qu'un dialogue entendu à la télé n'est pas mémorisé de la même façon qu'une conversation en direct à table avec sa famille.
Le langage de l'enfant s'acquiert dans l'échange. Il a besoin de répéter les mots, il a besoin de les entendre, prononcés par quelqu'un d'autre, il a besoin d'être repris sur sa prononciation, il a besoin d'apprendre des synonymes, de construire sa syntaxe. Et ça se fait effectivement avec un retour que ne fait pas forcément l'écran. Les écrans, lorsqu'ils sont allumés dans l'environnement familial, en arrière-plan notamment, ils ont tendance à diminuer la qualité et la quantité des échanges entre les parents et les enfants.
Et l'idée n'est pas de supprimer tous les écrans, poursuit ce chercheur, mais de faire en sorte qu'ils n'empiètent pas trop sur les moments d'échange. Le conseil vaut aussi d'ailleurs pour les tablettes et les smartphones à table, car ils ont tendance, eux aussi, à réduire le niveau de conversation.
Et bien, défaut d'écran, écouter la radio à l'heure du repas, c'est aussi, ouais, une idée.
Et on discute avec ses enfants après le journal de Marion Calais au petit-déj. Marion Calais, 7h11 sur Europe 1.
Europe 1, Sébastien Krebs.
Vous l'entendez, dans le journal, les carnets de réservation sont bien remplis. Les restaurateurs ont le sourire après 7 mois éprouvants qui, vous allez le voir, ont suscité beaucoup de questionnements aussi sur leur avenir, sur leur métier, sur leur façon de travailler. On va en parler à 7h40 avec le chef Yves Candebord qui sera mon invité dans le tête-à-tête. D'abord, votre éclairage éco, Nicolas Barré.
Et les Français qui adorent le livret A et pourtant, avec le retour de l'inflation, c'est un placement perdant. On va voir si ça pourrait changer.
A tout de suite, vous êtes sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9, Sébastien Krebs.
7h13 sur Europe 1. Bonjour Nicolas Barré.
Bonjour Sébastien.
Directeur de la rédaction du journal Les Échos. Votre éclairage ce matin sur les prix qui augmentent. L'inflation avait disparu en France, mais elle revient doucement et avec une conséquence lourde pour des millions de Français. Elles grignotent leur épargne.
Oui, en premier lieu, le livret A, un des placements favoris des Français. Il y en a presque autant que d'habitants, enfants compris, environ 60 millions. Des livrets qui renferment 350 milliards d'euros d'épargne, mais qui ne rapportent pratiquement plus rien, 0,5% par an. C'est le taux le plus bas depuis que le livret A existe. D'ailleurs, pour mémoire, le livret A a été créé carrément en 1818 par Louis XVIII pour faire face à la crise financière héritée des guerres napoléoniennes.
Alors, le livret A a quelque chose de rassurant. Il est toujours populaire, mais pourtant, c'est devenu un mauvais placement.
Ben oui, il rapporte bien moins que l'inflation. Faites le calcul, l'inflation est de l'ordre de 1,4% actuellement. Elle a même tendance à monter, on est autour de 2% en Europe. Et donc on est très au-dessus des 0,5% que rapporte le bon vieux livret A. Le paradoxe de l'affaire, c'est qu'il continue à attirer les épargnants. Ils y perdent, mais ils adorent. On vient encore d'enregistrer un record de collecte. Ça n'est d'ailleurs pas la première fois que ça arrive. Les plus anciens se rappellent qu'en 1974, la pire année pour le livret A, eh bien l'inflation frisait les 14%. Le livret A ne rapportait que 6,25%, la moitié. Et pourtant, les Français continuaient d'y placer leur épargne plutôt que de tenter leur chance en bourse. Ça n'est pas très rationnel, mais c'est comme ça.
Ouais, reste que ce taux très bas du livret A, inférieur à l'inflation, bien ça met la pression sur le gouvernement.
Oui, et alors ça va arriver en pleine année électorale. Faut-il relever ce taux de 0,5%? Ne pas le faire, eh bien, c'est risquer de mécontenter des millions d'épargnants. Ça fait d'ailleurs 3 ans que ce livret A rapporte moins que l'inflation. En clair que les petits épargnants y perdent. Vous me direz, il y a un intérêt un peu cynique à ce que l'épargne rapporte peu, en théorie. Eh bien, ça incite à consommer. Mieux vaut dépenser son épargne tout de suite que de voir sa valeur diminuer avec le temps et donc se faire grignoter par l'inflation. Les Français ont accumulé beaucoup d'épargne pendant le Covid. S'ils ne dépensent pas tout, ils aimeraient quand même que cette épargne leur rapporte un minimum. Or, aujourd'hui, ça n'est pas le cas.
Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Chaque matin à 7h10, c'est l'éclairage écho. Et Vincent Hervette nous a rejoint. Bonjour Vincent.
Bonjour Sébastien, bonjour Nicolas, bonjour à tous.
Votre regard international, Joe Biden s'envole pour l'Europe, c'est sa première tournée à l'étranger. Il dormira ce soir en Grande-Bretagne. L'Amérique est de retour.
Oui, la semaine commence par un tête-à-tête avec Boris Johnson en Angleterre et elle se terminera dans une semaine par un face-à-face avec Vladimir Poutine à Genève. Entre les deux, entre le pays qui a quitté l'Union européenne et la Suisse qui ne veut décidément pas y rentrer, Joe Biden fera étape à Bruxelles. Une escale seulement. C'est à petite vitesse que Joe Biden va faire ce marathon multilatéral. Sommet du G7, sommet de l'OTAN, sommet Europe-États-Unis, sommet avec la Russie. Quelle différence avec ses prédécesseurs. Barack Obama traitait les Européens comme des cousins de province. Il était toujours pressé. Plus impatient encore, Donald Trump abrégeait systématiquement la corvée, plantant là les autres dirigeants du G8 ou du G20.
Joe Biden est mieux élevé alors.
Ben, il voyage, mais se ménage. Alors, il arrive aujourd'hui, mercredi. Il voit Bojo le jeudi. Le vendredi, il a récupéré du décalage horaire pour le G7, qui se termine le samedi. L'Américain reste encore le dimanche. Il tient à voir la reine au château de Windsor. Elisabeth II aura rencontré tous les présidents américains depuis la guerre pour parler de la pluie et du beau temps. Le lundi, le voilà à Bruxelles et le mardi aussi. Le mercredi, encore un saut de puce et le clou du voyage, Vladimir Poutine, qui a rencontré tous les présidents américains depuis l'an 2000, mais ne leur parle jamais de la météo. Il y a toujours de l'orage dans l'air.
Joe Biden veut mobiliser les Européens.
Le secrétaire d'État, Anthony Blinken, dit que le monde a besoin du leadership américain. Il y a trop de messianisme là-dedans pour qu'il reste beaucoup de multilatéralisme. Le front uni des démocraties à économie de marché, c'est l'Amérique qui revient à la logique de la guerre froide. Il s'agit d'endiguer la Chine, accessoirement peser sur la Russie pour qu'elle n'aille pas se jeter dans les bras de Pékin. Joe Biden a traité Xi Jinping de voyou et Poutine de tueur. Avec les Européens aussi, il les cache, il donne des gages. Les entreprises américaines paieront peut-être 15% d'impôts dans les pays où elles font des bénéfices. Et le département d'État a levé hier soir l'interdiction d'aller en Europe à cause du Covid. Comme quoi, l'Amérique écoute ses alliés, au moins un peu, et pas seulement avec les grandes oreilles de la NSA.
Le regard international, signé Vincent Hervouette sur Europe 1. Et on retrouvera notre correspondant aux États-Unis tout à l'heure dans le journal de 8h. 7h17. Dans quelques secondes, on revient sur le match des Bleus. Hier soir, votre édito sport, Virginie Fulpin.
Destin croisé, ça pourrait être le sous-titre de l'histoire entre Karim Benzema et Olivier Giroud. Mais l'équipe de France a besoin de ces deux attaquants.
A tout de suite avec aussi Stéphane Bern. Bon réveil à tous.
Matin. Le 7-9, Sébastien Krebs.
Il est 7h20, bonjour Virginie Fulpin.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Votre édito sport après cette victoire des Bleus face à la Bulgarie hier soir, 3-0, dernier match de préparation avant l'Euro. Un retourné de Griezmann et deux buts d'Olivier Giroud.
Ça reste un buteur avec un moral et un mental à toute épreuve, donc... Je crois qu'il a plus joué ce soir que les trois derniers mois réunis.
Ah oui, le constat de Didier Deschamps, Giroud au premier plan après la sortie de Benzema sur blessure. Virginie, pour vous, quoi qu'il arrive, ces deux-là ont toujours des destins opposés.
Je m'étais pourtant promis de ne jamais mettre en opposition les deux attaquants, ceux qu'on a toujours comparés, ceux dont on a arbitrairement fait des ennemis alors qu'ils n'ont jamais fait preuve d'inimitié l'un envers l'autre. Karim Benzema qui se comparait à une Formule 1 quand il voyait Olivier Giroud comme un karting. C'est de l'histoire ancienne de l'eau bleue à couler sous les ponts depuis. Hier soir, on goûtait avec joie au retour du public au Stade de France. Les drapeaux flottaient dans les tribunes et les visages des 5000 supporters maquillés en bleu, blanc, rouge souriaient. Et c'était ça l'image de la France que j'avais envie de retenir de ce 8 juin 2021. Enfin, un peu de légèreté et d'union nationale. Avouez que les encouragements qui descendent des gradins, c'est quand même autre chose que cette bande-son enregistrée qui nous arrache les oreilles depuis le début clairement. De la crise sanitaire. Tout était donc réuni pour une soirée d'osmose parfaite. Pogba virevoltant, Mbappé et Benzema complices et Antoine Griezmann qui nous a offert, vous le disiez, un retourné sublime pour ouvrir le score. Mais Karim Benzema s'est mis à grimacer. Il est sorti du terrain, la cuisse douloureuse. Et j'ai l'impression d'être au lendemain de Noël et d'avoir déjà cassé mon plus beau jouet sous le sapin, celui que j'attendais depuis des années.
Bon, on va pas trop s'inquiéter. A priori, ce n'est pas si grave. Le staff des Bleus a surtout voulu protéger Benzema en le faisant sortir.
Ouais, ça va pas nous empêcher de surveiller de près ses bulletins de santé, plus que ses feuilles de stats en attendant mardi et le match contre l'Allemagne. Karim Benzema a quand même un destin contrarié qui lui colle au crampon en équipe de France. Exactement l'inverse d'Olivier Giroud. Quand l'attaquant de Chelsea a remplacé celui du Real Madrid juste avant la mi-temps, j'imagine que je ne suis pas la seule à m'être dit « c'est sûr, il va marquer un but ». C'était presque écrit d'avance. Je me suis trompée, il n'en a pas marqué un, mais deux. Giroud cire le banc et ronge son frein en permanence dans son club. Mais dès qu'il arrive en bleu, il se transforme en super-héros, toujours là où il faut, quand il faut. Dans l'équipe type de Didier Deschamps, Benzema est titulaire et Giroud remplaçant. Hier soir, c'est le premier qui a regardé le deuxième inscrire un doublé et ça l'a fait sourire. Pas du tout un sourire crispé, je vous vois venir, un vrai sourire heureux. L'équipe de France a besoin de ces deux-là. Alors Karim, on soigne cette cuisse comme Olivier a soigné son moral hier soir. Et les destins croisés des deux attaquants ne seront qu'une péripétie de plus sur la route de l'Euro.
Bon, on va le souhaiter. Le super héros Olivier Giroud, l'édito sport, signé Virginie Fulpin sur Europe 1. 7h23, c'est le moment de retrouver Stéphane Bern pour notre petit moment d'histoire. Bonjour Stéphane.
Bonjour Sébastien, bonjour à toutes et à tous. Pourquoi quand on dit agir ensemble, agir de façon concertée, on utilise l'expression agir de conserve? Et pour le même prix, bon, c'est-à-dire gratuitement, je vous propose de répondre à une autre question. Pourquoi on dit aussi agir de concert?
Alors dans les deux cas, vous l'avez dit, c'est agir ensemble, en se coordonnant, de concert, de conserve. On va parler de musique et de boîtes de concert ou pas du tout ?
Eh bien, Sébastien, dans les deux cas, je suis bien obligé de vous répondre par la négative. Agir de concert, débarrassons-nous tout de suite de cette formule, car c'est la plus simple. C'est agir en concertation. Concertation, concert, l'analogie tombe sous le sens. En revanche, quand on utilise l'expression « de conserve », ça n'a rien à voir. En tout cas, dans l'origine, parce que la signification, vous avez raison, est la même. Quand on dit « de conserve », on fait référence au langage maritime. Au XVIe siècle, quand deux bateaux naviguaient en se suivant, soit parce que l'un escortait l'autre pour se protéger, soit parce que l'un était prisonnier de l'autre, ils prenaient la même trajectoire et voguaient donc de conserve. Par extension, la formule était aussi utilisée quand on naviguait à vue et sans les cartes. Aujourd'hui, de concert et de conserve sont moins utilisés. On dit en anglais « hand in hand », main dans la main, ou « soulmate » en âme sœur, ou toujours en anglais « hand in glove », la main dans le gant. Pas forcément pratique hein, pour naviguer un bateau. Bref, l'important, c'est de se soutenir, d'être là l'un pour l'autre, en amitié comme en amour d'ailleurs. N'oublions pas ce mot de l'écrivain sétois Paul Valéry, l'amour, ça consiste à être bête ensemble. Cela dit, s'aimer ensemble en étant intelligent, ça doit aussi pouvoir se tenter, et ça c'est moi qui l'ai rajouté.
Voilà. Et main dans la main avec Mathieu Noël, vous le saurez pour Historiquement Vôtre à 16h.
Absolument, à 16h, on réunit l'écrivain Jean Genet, Albertine Sarrazin, qui a comme lui écrit son premier roman en prison, L'Astragale, du nom de cet os du pied qu'elle s'est cassé en tentant de s'évader, et Joey Starr, qui a écrit son album Égomaniaque en zonzon aussi. Et oui, leur point commun, des esprits libres, enfermés, que la prison a inspiré.
À tout à l'heure, 16h pour Historiquement Vôtre, à suivre sur Europe 1. Laurent Cabrol, la météo et le journal de Sophie Echen, 7h25. Europe 1. 7h28, Laurent Cabrol, la météo.
Sur la Manche, débrouillard. De Lorraine-Bourgogne, Auvergne, Cévennes, quelques ondées orageuses. Sur l'Alsace, la Franche-Comté, Rhône-Alpes, la Côte d'Azur et la Corse, des orages en fin de journée. Partout ailleurs du soleil, notamment en région parisienne. Température en hausse de 1 degré partout. C'est l'été. Si j'étais feignant, je m'arrêterais là. Eh bien, je suis feignant.
Ah bah voilà, rien d'autre à dire ce matin. Un peu plus de détails juste avant 8h. Merci à vous Laurent Cabrol, à tout à l'heure.
Europe Matin, le 7-9. Sébastien Krebs.
Bienvenue sur Europe 1, tout de suite un nouveau journal. Bonjour Sophie Echen.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Presque 7h30.
On est conscient que ce pass sanitaire, il faut que ça marche pour ce pays, il faut qu'on s'en sorte.
Et il va devenir un précieux sésame pour accéder au rassemblement de plus de 1000 personnes. Le pass sanitaire entre en application aujourd'hui et c'est à Roland-Garros qu'on va inaugurer le dispositif. Dans ce journal, la vaccination des adolescents et les doutes du Comité national d'éthique, les interrogations autour de la sécurité du chef de l'État après la gifle reçue hier par Emmanuel Macron. Et puis vous n'avez pas encore rempli votre déclaration de revenus. Eh bien c'est trop tard, mais pas de panique. Vous pouvez limiter les sanctions.
Juste après le journal, Bertrand Chameroy, La Touche Cham, le tête-à-tête Europe Matin, la passion et les questionnements du père de la bistronomie, le chef Yves Candebordes, sera mon invité avant votre édito politique, Nicolas Bétou.
Toute la classe politique a condamné la gifle reçue par Emmanuel Macron, mais les nuances dans les réactions éclairent beaucoup sur le paysage actuel en France.
Sans oublier Nicolas Canteloup qui nous rejoindra juste avant 8h.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Vous le sentez, cet air de liberté peu à peu retrouvé, avant dernière étape du déconfinement aujourd'hui, avec la réouverture de l'intérieur des restaurants, des salles de sport, des piscines couvertes, des casinos et un couvre-feu repoussé à 23h. Autre nouveauté, le pass sanitaire désormais obligatoire pour les rassemblements de plus de 1000 personnes, comme à Roland-Garros par exemple. Johanna Chabas.
Amélie Oudéa-Castéra, directrice générale de la Fédération française de tennis, ressent déjà la pression. À partir d'aujourd'hui, pour entrer, les plus de 13 000 spectateurs doivent prouver qu'ils sont complètement vaccinés ou qu'ils ont eu le Covid récemment ou encore qu'ils ont un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48 heures. Amélie Oudéa-Castéra sait que ses équipes vont devoir faire preuve de pédagogie.
On a prévu déjà beaucoup de renforts en personnel pour finalement, dès l'arrivée, bien prévenir chacun qu'il faut bien préparer ses documents. Si on sent que les personnes n'ont pas ça, tout de suite, on les mettra sur une file d'attente différente, on les incitera permettra à peut-être aller dans un labo proche pour faire un test antigénique qui a l'avantage d'être rapide et qui puisse revenir dans le stade équipé du bon sésame.
À l'entrée, les spectateurs en règle devront simplement montrer un QR code sur téléphone ou sur papier obtenu grâce au site de l'assurance maladie ou à l'application Tous Anti-Covid. Seul le personnel habilité pourra vérifier si le visiteur a le droit d'entrer et la direction du tournoi insiste, aucune donnée n'est stockée par la Fédération française de tennis.
Et tout à l'heure à 10h, le ministre de la Santé Olivier Véran et le secrétaire d'État chargé de la transition numérique Cédric O viendront sur place pour tester le dispositif.
Et on retournera à Roland-Garros pour l'aspect sportif bien sûr tout à l'heure après le journal de 8h, c'est votre rendez-vous, le journal de Roland-Garros. En attendant, l'épidémie poursuit sa décrue, hein, moins de 2400 patients hospitalisés en soins intensifs en ce moment et le nombre de nouveaux cas quotidiens continue aussi de diminuer.
Et tout cela dû aux effets du confinement mais aussi à la vaccination. 28 millions de Français ont reçu au moins une dose et mardi prochain, ce sont les adolescents de plus de 12 ans qui devraient pouvoir se faire vacciner. Et sauf que le Comité consultatif national d'éthique se montre prudent. Il vient de rendre son avis sur le sujet, Victor Delande.
Oui, d'abord le Comité consultatif national d'éthique se pose la question du bénéfice individuel de la vaccination pour les adolescents. Assez limité, répond le CCNE, puisque les formes graves du coronavirus chez les moins de 18 ans sont très rares. Il existe tout de même un bénéfice collectif à vacciner les ados. On le comprend, ça permettrait d'atteindre plus rapidement l'immunité collective nécessaire pour endiguer l'épidémie. Seulement voilà, le CCNE s'interroge, est-il éthique de faire porter aux mineurs la responsabilité en termes de bénéfices collectifs, du refus de la vaccination d'une partie de la population adulte, et n'existe-t-il pas un risque de stigmatisation pour les adolescents qui ne voudraient pas se faire vacciner ? Au-delà de ces réserves, le Comité consultatif national d'éthique rappelle la nécessité d'un consentement éclairé des adolescents avant de se faire vacciner.
Les explications de Victor Delande.
La scène a indigné toute la classe politique. Cette gifle reçue hier par Emmanuel Macron en visite dans la Drôme.
Oui, c'est le risque du bain de foule. Atteint l'Ermitage, un homme de 28 ans s'en est pris au chef de l'État avant d'être aussitôt arrêté. Un acte malheureusement impossible à anticiper pour les services de sécurité du président, rappelle Pascal Bito-Panelli, ancien commandant du service de protection des hautes personnalités.
Le risque zéro, même avec un personnel de haut niveau professionnel autour de soi, n'existe pas. La difficulté en France et dans d'autres pays très démocratiques, c'est que le président de la République décide de ce qu'il veut faire. Contrairement, par exemple, au modèle israélien, russe, où le protocole de sécurité est extrêmement établi et où le président s'y réfère. Donc, si sur un déplacement, parce qu'il voit des gens qui ont l'air d'être des sympathisants ou qui lui semblent l'acclamer, s'il décide ex abrupto de descendre du véhicule et d'y aller, c'est comme ça. Ça fait malheureusement partie du métier, partie de l'exercice. Quand on est nommé président de la République, on devient une cible, on est très menacé. Par ailleurs, en général, ces actions, elles se passent vraiment sous la seconde. C'est donc très difficile.
Les propos recueillis par Laura Taouchanoff. L'ouverture de la PMA à toutes les femmes votées par l'Assemblée nationale hier, malgré l'opposition de la droite. La mesure phare du projet de loi bioéthique doit encore être examinée en nouvelle lecture avant son adoption définitive le 29 juin.
Avis aux retardataires, attention hein, à ceux qui n'ont pas rempli leur déclaration de revenus, attention aux sanctions.
Ah bah oui, la date limite c'était hier soir, mais bon, Carole Ferry, admettons, j'ai complètement oublié d'effectuer la démarche ou bien je n'ai pas eu le temps, eh bien que se passe-t-il exactement ?
Alors pas de panique, mieux vaut tard que jamais. Si vous avez oublié de faire votre déclaration de revenus, vous pouvez le faire aujourd'hui, ça s'appelle une déclaration tardive, mais vous devrez payer une pénalité de 10%. Si vous avez un impôt annuel de 1000 euros par exemple, eh bien vous devrez payer au fisc 1100 euros pour avoir déclaré vos revenus hors délai. Il ne faut quand même pas trop tarder, car si vous recevez une relance et ne répondez pas dans les 30 jours, vous aurez là une pénalité de 40%. Alors vous pouvez éventuellement y échapper si votre retard s'explique par une hospitalisation, par exemple, il faut alors le signaler à la Direction générale des finances publiques. Si vous vous dites que vous avez fait une erreur ou un oubli dans votre déclaration, c'est trop tard pour changer, cela entraînerait également des pénalités. Mais vous pourrez le faire quand vous aurez reçu votre avis d'imposition. Ce sera à partir de la seconde quinzaine d'août.
Et à partir de ce moment-là, plus d'excuses. Et puis le foot, pour terminer avec la victoire des Bleus contre la Bulgarie hier soir. 3-0 pour le dernier match de préparation avant l'Euro. Quelques frayeurs après la sortie de Karim Benzema sur blessure, mais rien de grave a priori selon le sélectionneur Didier Deschamps.
Le journal de Sophie Echen sur Europe 1. Il est 7h36.
Europe 1, Sébastien Krebs.
Et sachez que le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, sera l'invité politique de Sonia Mabrouk tout à l'heure à 8h15 après la gifle reçue par Emmanuel Macron et en cette journée de déconfinement. D'abord, je reçois le restaurateur Yves Candebordes qui rouvre ses bistrots parisiens aujourd'hui. Le tête-à-tête à suivre juste après la touche âme. Bonjour Bertrand Chamerois.
Bonjour Sébastien, vous pensez que je vais parler de la gifle ? Perdu. Je suis toujours là où on ne m'attend pas et j'ai des bonnes nouvelles.
Ok, très bien. À tout de suite.
À tout de suite. Europe Matin, le 7-9, Sébastien Krebs.
7h39 sur Europe 1, c'est l'heure de la touche âme, le regard de Bertrand Chamerois. Bonjour Bertrand.
Bonjour Sébastien, je ne sais pas comment ça va pour vous, mais alors perso, je suis au top. Ah, là, je trouve qu'il y a vraiment une super bonne ambiance en ce moment. C'est ouh, c'est limite trop. Ça,
ça que fait, de bonnes nouvelles.
Ça fait pas flipper, c'est chouette. Ça. Le dérapage de Jean-Luc Mélenchon, ah, le clip de Papacito, Francis Lalanne qui frappe des journalistes, Emmanuel Macron qui se fait gifler. Et tout ça en seulement 4 jours. 4 jours Sébastien, on n'est que mercredi. Ah bah oui, c'est fait, et vous en voulez encore ? J'ai pas entendu, vous en voulez encore ? Plus de bonnes nouvelles qui foutent le cafard ? Bah, suffit de demander au professeur Delfrécy. Le président du conseil scientifique doute que l'on atteigne l'immunité collective en septembre. Et surtout, il se prépare à une reprise de l'épidémie à la rentrée avec le variant indien. Eh ben voilà, pour ceux qui misaient encore un peu d'espoir sur cette semaine, eh ben on est sûr que toute trace est anéantie. Ah, on est bien, bien, bien. Après, on peut aussi voir le verre à moitié plein. Avant la reprise, le professeur prédit la fin du masque en extérieur et un été tranquille. On ira où tu voudras quand tu voudras. Et l'on kiffera encore. Saint Malo à Osgore, toute la vie sera légère, ce sera bien. Quand soudain le variant indien.
Magnifique.
Et à partir de là, c'était totalement dans le tempo. À partir de là, le retour dit du merdier, comme on appelle ça dans le jargon technique. Alors attention, on ne se lassera pas. Sachez que toujours selon le professeur Delfrécy, la quatrième vague sera très différente, notamment en raison de la vaccination. En fait, le Covid, c'est comme la mode. On a des nouvelles collections à chaque saison. Mais personnellement, je ne suis pas très impatient de découvrir la collection automne-hiver 2021. Bienvenue dans 5 minutes de mode de contamination. Oubliez le variant anglais, cet automne, la tendance, c'est le variant indien. La collection Delta, un style totalement différent de la précédente. Les bras sont piqués, les gestes sont barrières, mais le masque en extérieur, c'est out, tellement 2020. Cet automne, le virus se propage de façon plus smooth. Côté création, Jean Castex revisite son iconique confinement, qui se vit plus ample, plus souple, mais toujours aussi insaisissable. À côté de demain matin. C'était 5 minutes de mode de contamination. Bonne dépression à tous.
Bertrand Chamerois, la touche âme, en bande-annonce et en chanson.
Et toujours,
ce petit moment de musique. Bertrand Chamerois, merci, à demain, 7h42.
Europe Matin, le 7-9.
Les restaurateurs attendaient cette journée depuis le mois d'octobre, le jour où ils remettent le couvert, les salles rouvrent. Et c'est un passionné, un amoureux de la culture du bistrot qui est mon invité ce matin, le père de la bistronomie, Yves Candebordes, rouvre son comptoir, ses avant-comptoirs à Paris et à Bordeaux. Et il est sur Europe 1.
Le tête-à-tête, Sébastien Krebs.
Bonjour Yves Candebordes.
Bonjour. Merci de nous recevoir.
Merci à vous de nous rejoindre dans le studio d'Europe 1 ce matin, 29 octobre. 9 juin, ça fait plus de 7 mois hein, sans assiette à servir à l'intérieur de vos restaurants. Comment vous vous sentez ce matin ?
J'ai encore eu de la chance au moins parce que j'ai pu faire, je dirais, mon premier galop d'essai, puisque j'ai une terrasse qui a ses conséquences sur le comptoir et sur l'avant-comptoir du marché. Donc on a pu se préparer à cette réelle ouverture. Voilà, on se sent heureux, on se sent soulagé des mois qu'on vient de passer, des mois qui ont été quand même psychologiquement difficiles et financièrement catastrophiques.
L'intérieur qui ouvre enfin, le couvre-feu qui va permettre aussi d'aller plus facilement dîner au restaurant jusqu'à 23h, ça change tout aussi ça.
Oui, ça change tout parce qu'on va retrouver un peu nos automatismes. C'est vrai qu'on a été oublié de changer un peu nos façons de travailler avec des extérieurs en passant, j'ai envie de vous dire, entre les gouttes. La retrouver, voilà, nos petits automatismes, notre plaisir de recevoir les gens, de retrouver des nappes sur nos tables, voilà, de rentendre un peu le fond sonore si particulier d'un restaurant. Voilà, cette cacophonie qu'on aime tant, ça nous donne de la joie au cœur et on est très fiers d'être là parce qu'on sait qu'on a la chance d'avoir des clients qui nous ont soutenus depuis 15 jours et qui vont être encore présents pour nous donner cette joie de vivre qu'on a de faire notre métier.
Alors il y aura quand même cette jauge à 50% dans les salles. C'est quand même jouable. Vous serez rentable?
Non, on sera pas rentable du tout. Mais bon, voilà, on sait très bien que c'est pour un temps limité. Voilà, ça va permettre à tout le monde aussi, voilà, de se réadapter, parce que ça n'a pas été facile, honnêtement, de reprendre après de ce long repos obligatoire, physiquement et moralement. Donc ça va nous permettre, voilà, de relancer un peu, voilà, les méchants, la marchandise, de relancer les machines, de nous relancer à nous, pour vraiment, je dirais, rentrer dans la vie réelle, de retrouver notre vie normale début juillet.
Un restaurateur témoignait sur Europe 1 hier matin de ces additions plutôt en hausse. Les clients qui viennent ont tendance à se faire plaisir, à dépenser un peu plus. Est-ce que c'est ce que vous avez constaté sur vos terrasses aussi ?
Oui, ça a été un soutien de l'ensemble de nos clients. C'est là qu'on se rend compte que le petit bistrot, le café, la brasserie, la crêperie, le grand restaurant a son importance dans la vie, dans la culture française. Nos clients nous prouvent encore aujourd'hui qu'on est quand même, allez, en étant prétentieux, un peu indispensable à la joie et la bonne humeur de notre quotidien.
On voit et on entend votre sourire ce matin, Yves Candebord. C'est la sortie du tunnel, on le comprend. Comment vous avez traversé cette période, ces 7 mois de rideau baissé? Vous l'avez vécu avec de la colère?
Ouais, non, de la colère, non. Je pense qu'on a été dans une forme d'incompréhension totale. Alors c'est vrai que c'est très violent parce qu'on s'est senti sacrifié avec la culture. Donc ça a été très compliqué à admettre. Et après, je pense qu'il y a eu une forme de résignation et aussi une forme de réflexion personnelle, les uns et les autres. Je vois avec beaucoup de collègues, on en parle. On a réfléchi sans doute à quoi était réellement notre vie, à comment on voyait l'avenir, comment on voyait l'avenir de nos avenirs personnels et les avenirs professionnels de nos établissements.
Donc là, ça veut dire, Yves Candebord, que vous-même, vous avez pris du recul, que ça peut être une opportunité pour... Je sais pas, pour se réinventer, pour créer autre chose.
Oh, me réinventer, non, le mot réinventer me saoule un peu. J'ai pas envie de me réinventer. Je suis content comme je suis. Mais c'est vrai que moi aussi, voilà, j'ai 56 ans, donc j'ai réfléchi énormément, voilà, à trouver garder ce plaisir. Parce que c'est un métier où il nous faut le plaisir, le métier où il nous faut de la passion. Et on en a aussi la passion, ce mot passion est autant magique et quand même aussi douloureux par rapport à soi-même, par rapport à sa vie familiale, par rapport à sa vie sociale. Donc j'ai essayé de réfléchir comment je pourrais arriver à terminer mes 10 dernières années professionnelles.
Ouais. Je pense que avec un changement de vie, si j'ai bien compris ce que j'ai lu, parce que vous envisagez de quitter Paris.
Oui, j'ai dit que je voulais être son, c'était toujours été mon ambition. Je me suis toujours considéré aussi comme un ouvrier, donc dans 2024, mais je serai à l'âge légal de la retraite pour continuer à travailler, mais j'ai peut-être une envie de peut-être un peu plus de sérénité, donc je vais essayer d'aller jusqu'aux Jeux Olympiques et après de refaire une dernière activité en province. Voilà, j'aime une région sur la vallée de la Durance qui me plaît énormément, où je me sens bien. C'est un monde agricole qui me convient et peut-être faire une dernière expérience professionnelle.
Avec un dernier restaurant créé là-bas.
Oui, mais ce n'est pas forcément un restaurant. J'ai envie de faire quelque chose d'un peu différent, un peu plus léger. Voilà ce que je définis ça en disant de faire un drugstore. Voilà, un drugstore de village, un lieu de vie où on pourra aussi bien venir acheter un vinyle qu'acheter un livre et rencontrer quelqu'un d'une génération différente qui pourra transmettre une histoire, qui va transmettre comment on pêche à la mouche, qui pourra transmettre comment on va chercher les champignons dans les bois, qui, je pense, sont des choses importantes pour moi, qui m'ont énormément servi. Donc j'ai envie de perpétuer ce plaisir que j'ai eu et essayer de le transmettre aux plus jeunes.
110 000 offres d'emploi ne sont pas pourvues dans ce secteur de la restauration. Pourquoi, selon vous, le secteur n'attire plus ?
Je ne pense pas que c'est qu'il n'attire plus, c'est qu'il y a eu, aujourd'hui, il y a eu beaucoup de gens qui ont, pendant cette période de non-activité, un peu regardé leur vie. Il faut savoir que le métier de restaurateur, que ce soit en salle ou en cuisine, nous sommes des gens qui travaillons matin et soir. Et c'est la première fois de notre vie qu'on a vécu peut-être un peu comme monsieur tout le monde, c'est-à-dire en étant le soir à la maison. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont posées la question, est-ce qu'il n'y a pas moyen de travailler différemment ? Et donc on va vivre une période, c'est sûr, de régulation. Et aussi, peut-être que l'ensemble de la profession doit aussi peut-être réfléchir un peu différemment. La nouvelle génération a peut-être envie de s'épanouir dans ce métier, mais peut-être pas de la même façon par rapport à, je dirais, l'implication horaire qu'on demande aux gens.
Yves Candebord, je vous souhaite une très belle reprise aujourd'hui à la brasserie Le Comptoir à Paris, dans vos différents avant-comptoirs également. Belle journée à vous, merci d'être passé par le studio d'Europe 1.
Ouais, merci beaucoup, et oui, je sais qu'elle va être belle parce qu'on va retrouver l'essence de notre métier, de faire plaisir aux gens, et pour nous, il n'y a rien de plus beau. Merci beaucoup.
Et on vous retrouve bien sûr avec Laurent Mariotte dans la table des bons vivants le samedi sur Europe 1 à 11h.
Dans la joie et la bonne humeur, toujours.
Europe 1, Sébastien Krebs.
7h49 à suivre, l'édito politique de Nicolas Bétou. À tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9, Sébastien Krebs.
Et à 7h51 sur Europe 1, j'accueille Nicolas Bétou. Bonjour Nicolas.
Bonjour Sébastien.
Directeur du journal L'Opinion, votre édito politique après cette scène et cette image qui marque le président giflé par un homme lors d'un bain de foule dans la Drôme. Toute la classe politique a condamné cette agression.
Oui, et c'est le premier effet politique de cette gifle, ce geste scandaleux qui a très rapidement provoqué un torrent de réactions, tout en soutien du président de la République. Comme souvent dans ce genre de circonstances, le réflexe républicain, l'union nationale, a joué à plein. Si l'agresseur d'Emmanuel Macron pensait diviser les Français, eh bien c'est raté.
Il n'y a pas eu de nuance dans ce soutien massif.
Ah si, ce qui s'est passé hier est même un petit révélateur de la façon dont se positionne aujourd'hui le monde politique. Il y a d'abord ce que j'appellerais les classiques. Ce sont les plus nombreux, on les trouve à La République En Marche, bien sûr, tous scandalisés, tous solidaires de leur chef. On les trouve aussi chez les socialistes, Olivier Faure, chez les républicains, Christian Jacob, bref, dans les partis dits de gouvernement. Les principaux candidats aux élections régionales n'ont d'ailleurs pas été en reste, et ceux d'entre eux qui visent ensuite l'Élysée ont même été les plus prompts à réagir. Impossible, en effet, de rater ce qui apparaît comme un acte de citoyenneté engagé. Valérie Pécresse, Xavier Bertrand à droite, Yannick Jadot à gauche, ils ont donc tous réagi. Même présence et des mots presque chaleureux de la part de quelqu'un qui n'apprécie pas du tout le chef de l'État, François Hollande, qui a mis le poids de son ancienne fonction dans la balance.
Bon, en somme, là, pas trop de nuances, il faut aller les chercher ailleurs.
Voilà, à côté des classiques dont on vient de parler, il y a ceux que j'appellerais les convertis. La réaction la plus spectaculaire dans cette catégorie a été celle de Marine Le Pen. Elle a immédiatement tweeté, puis renchéri avec des déclarations de soutien sans faille. On le sait, la présidente du Rassemblement national est lancée dans une opération de relooking de son image politique et elle ne devait en aucun cas passer à côté de ce brevet de respectabilité républicaine. Alors cette fois, aucun sous-entendu, pas de bémol, aucune réserve, un acte politique clair et net, une façon aussi de couper court à tout rapprochement avec l'agresseur royaliste et donc une bonne opération pour elle. C'est un peu différent du côté de Jean-Luc Mélenchon et de ses troupes.
Pourquoi ? Parce que le soutien était moins net ?
Le contexte était particulier pour lui. Il sortait tout juste d'une phase de tension en politique avec ses prédictions de meurtre préélectoral et sa dénonciation d'une vidéo violente visant ses militants. Bon, le leader de la France insoumise n'a pas laissé passer l'occasion de souligner que l'agresseur du président venait de l'extrême droite et de se placer lui aussi en victime potentielle de la violence en politique. « Cette fois-ci, vous commencez à comprendre que les violents passent à l'acte », a-t-il tweeté. En somme, l'Union nationale, oui. Le désarmement unilatéral, non.
L'édito politique signé Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion. Et on verra quels seront les mots ce matin du porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Sera face à Sonia Mabrouk tout à l'heure à 8h15. Bah tiens, justement, il est temps de retrouver Nicolas Canteloup à 7h54. Il conseille à sa manière l'invité de la matinale. Et c'est Édouard Philippe qui vient dire un mot à Gabriel Attal.
Oui, bonjour monsieur Krebs, monsieur
bonjour.
Bétou. Écoutez, je pense bonjour. Que Gabriel Attal va être interrogé sur l'agression du président hier dont parlait monsieur Bétou. J'ai vu les images, bien entendu. Alors, pour être honnête, j'ai mis Emmanuel Macron à la boxe lors de mon passage à Matignon. Et force est de constater que le résultat n'est pas terrible. Emmanuel a visiblement un gros problème de garde. Hein. Moi, à sa place, je faisais esquive rotative, retrait du buste, crochet gauche à la tempe et une droite au menton direct. Voilà, je pense qu'Emmanuel Macron a choisi son prof de boxe comme il a choisi son Premier ministre. Trop vite.
Nicolas Canteloup, voilà petit conseil à Gabriel Attal, qui sera donc l'invité de Sonia Mabrouk à 8h15. Et Nicolas, on vous retrouve pour la revue de presse à 8h40. À suivre, la météo Laurent Cabrol et le journal de 8h. Il est 7h55. 7h58, Laurent Cabrol est avec nous.
Bon, alors les deux questions qui vous interpellent, chers amis. Première question, est-ce que nous sommes aux portes d'une vague de chaleur ? Oui. Les températures vont monter aujourd'hui, demain, après-demain, samedi, dimanche, nous aurons des températures proches de 30-32 degrés dans les régions du sud-ouest, donc il va faire vraiment très chaud. Deuxième question, est-ce que cette chaleur va durer ? probablement, début de semaine prochaine, nous aurons encore chaud et probablement jusque pratiquement le milieu de la semaine. Après, peut-être encore. Troisième question qui fâche, celle-là, c'est est-ce que l'on va vers une canicule ? A priori, non. Mais je dis a priori. Je n'en suis pas encore totalement certain, on en reparlera demain. Alors, pour aujourd'hui, c'est simple, c'est un peu comme hier, à savoir quelques brouillards ou quelques brumes sur les côtes de la Manche, sur la Lorraine, la Bourgogne, l'Auvergne et les Cévennes, des ondées progressivement, sur l'Alsace, la Franche-Comté, Rhône-Alpes, la Côte d'Azur et la Corse, un temps orageux ce soir, cet après-midi et ce soir, notamment sur la Côte d'Azur. Plus belle chance de soleil pour, bien sûr, toutes les autres régions, Champagne, Ardennes, région parisienne, Poitou-Charentes, Limousin, Sambre, Val-de-Loire, etc., etc. Il faudra très beau à Roland-Garros, vous l'imaginez. D'ailleurs, Roland-Garros est une belle réussite puisqu'il fera très beau jusqu'au bout. Et puis aussi ceux qui ont pris leurs vacances en juin, bonne pioche, les amis, bonne pioche.
Eh oui.
Allez, à tout à l'heure.
Belle journée donc en perspective pour cette journée de déconfinement avec un couvre-feu à 23h. Merci à vous, Laurent Cabral.
Europe Matin, le 7-9, Sébastien Krebs.
Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur Europe 1 ce mercredi 9 juin. Tout de suite, toute l'info, on écoute le monde changer.